Bonsoir. Dans les premières pages de 5 dans tes yeux, Stress, l'anti-héros de votre premier roman, est questionné sur son projet de film où il veut raconter la vie de sa bande de potes dans le quartier embourgeoisé de Marseille où ils n'ont plus leur place. Petit extrait du dialogue, je me permets de lire avant la lecture. Et ça se passe au panier, oui, le panier des années 80. C'est autobiographique, c'est pas Jean Rouch qui disait « la fiction n'existe pas ». T'es sûr que Jean Rouch a dit ça ? Non, je ne suis pas sûr. C'était une façon habile, Adrien Belz, d'anticiper les questions qu'allaient inévitablement vous poser les journalistes et les lecteurs, souvent pénibles et soucieux de démêler le vrai du faux. Car Stress est votre double de papier. Comme lui, vous avez grandi dans le panier, le quartier au-dessus du Vieux-Port, toujours très, très populaire dans les années 80. Comme lui, à l'école, vous étiez le seul enfant à la peau rose. Comme lui, vous avez zoné dans les rues avec une bande de copains maghrébins et comoriens dont les mères n'écoutaient pas, comme la vôtre, des émissions sur France Culture. Comme lui, vous avez tourné des films de mariage dans les quartiers nord de Marseille. Mais, bien entendu, 5 dans tes yeux est une vraie fiction. Une vraie fiction où, comme Jean Rouch, vous observez avec une rigueur d'ethnologue les mœurs d'une ville avec ses vagues de migrants et de venants. Les venants, ce mot ne quitte plus la bouche de celles et ceux qui ont lu le roman, succès critique et public. Il désigne ceux dont l'arrivée annonce la gentrification des villes lorsque l'installation des classes sociales favorisées en chasse les pauvres. Venant, un terme issu du Sénégal, d'où votre femme est originaire, et où se déroule votre deuxième roman, Tibi la Blanche. Il y est encore question d'adolescence, d'amitié, du choc des cultures et des classes. Et une grande ville populaire y est à nouveau magnifié, Dakar et ses banlieues. On y retrouve avec beaucoup de plaisir votre art de conjuguer humour, parfois grinçant, chronique politique, exploration urbaine et un art du récit laissant aussi place à l'émotion. Alors ce soir, à Cucuron, avec les nouvelles hybrides, on va parler de ces deux romans, le premier et le second. Et donc on sent qu'il y a un croisement. Et peut-être pour lancer notre discussion, se demander si Tibi la Blanche, Tibi Toubab, Tibi Licanté, donc les noms de Tibi, est-ce que d'une certaine façon, elle est aussi votre double de papier, puisque fiction est...
Et... Si Tibi est mon double de papier
oui. Probablement pas aussi directement que Stress.
En tout cas... Il y a un rapport, il y a à la fois le terme de venant que tu as soulevé, c'est-à-dire que à la fois le terme de venant, c'est un terme qui est un terme sénégalais pour désigner les gens qui viennent d'Europe pendant les vacances souvent. Donc c'est souvent les familles parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui vont en Afrique noire pendant les vacances. Il y a un peu de tourisme, mais le tourisme s'est un peu effondré après la chute du Paris-Dakar, hein, notamment. Mais du coup, le terme de venant, c'est ceux qui viennent d'Europe, et souvent, c'est les neveux, les cousins qui arrivent avec un peu de fric, des belles fringues et tout, et on les appelle les venants. Et donc, c'est un terme, Tibi, je l'ai écrit beaucoup parce que ma femme est sénégalaise, et c'est un terme qui vient, bien sûr, de ma femme, qui me l'a soufflé dans l'oreille pendant l'écriture du texte de Tibi. Et il y a à la fois ça, et puis il y a aussi une scène dans 5 dans tes yeux, qui est une scène où Stress se retrouve en... Stress, c'est le personnage qui est mon double, qui se retrouve en boîte de nuit, oui. Dans une boîte de nuit afro, qui s'appelle le Montréal. Nous, on allait beaucoup au Montréal parce que c'était la seule boîte de nuit qui nous acceptait. Bon, on avait toutes sortes de stratégies pour rentrer en boîte de nuit. Moi, j'avais moins de difficultés que les autres pour rentrer en boîte de nuit parce que j'étais blanc. Mais mes potes, c'était galère, quoi. Donc, du coup, on allait dans la boîte de nuit afro, le Montréal, et c'était la boîte de nuit où on pouvait rentrer. Et il y a une scène dans 5 dans tes yeux où Stress, dans les boîtes de nuit afro, il y a la partie Zouk Love, hein. Donc c'est le moment où on peut danser avec des filles. Et Stress, il n'arrive pas à danser avec des nanas parce que du coup, il se retrouve qu'avec des nanas noires et que lui, il est blanc. Et c'est très compliqué, en tout cas dans les années 90, d'aller danser avec une fille noire parce que tout le monde va la voir. Et donc, du coup, tu es la fille qui danse avec le blanc. Et lui, en fait, il voit une fille qui est sur une baffle, loin, et donc il s'imagine sa vie avec elle. Et il dit, voilà, on va se marier. Non, on ne va pas se marier, justement. On va aller dans un cinéma à plan de campagne. On va finir dans un hôtel Formule 1. Ou alors, on va faire l'amour dans un parc. Et puis, finalement, je vais lâcher parce que tu voudras te marier avec moi et que finalement, moi, je ne voudrais pas. Et parce que je ne voudrais pas devenir musulman. Je ne voudrais pas ci, je ne voudrais pas ça. Et finalement, je vais te lâcher. Donc, en fait, il se projette avec cette fille-là, qui est une fille qui ne danse pas. Et en fait, finalement, c'est ma femme. Et c'est un hommage à ma femme. Et finalement, après, je fais un deuxième livre qui est un hommage à ma femme parce que Tibi, c'est quelque part, c'est ma femme. C'est ma femme comme si elle était aujourd'hui, en fait. C'est Tibi, c'est un hommage à ma femme. Donc, voilà, tu vois, il y a toujours des liens entre les livres. Il y a aussi dans Tibi la Blanche toute une scène en boîte de nuit avec un personnage qui est Monsieur Khan, avec toute la fabrication du tchep, qui compare une boîte de nuit à la recette d'un tchep. Le tchep, c'est le plat national sénégalais. Donc, du coup, il compare qu'est-ce qu'il faut dans une boîte de nuit pour faire un bon tchep et qu'est-ce qu'il faut dans un tchep pour faire une bonne boîte de nuit, quoi. Donc, du coup, il y a des passerelles comme ça entre les textes.
On va y revenir sur ouais. Comment s'articulent les deux romans, la fiction, la biographie et au-delà. Mais peut-être d'abord, entendre Cinq dans tes yeux avec un premier extrait.
Alors, ma mère s'est installée au panier en 1982, dans la partie comorienne du quartier. Avec son maigre héritage, Fred avait acheté pour rien du tout un grand appartement avec vue sur le vieux port. Quand elle a débarqué, ses voisins faisaient la vaisselle sur le trottoir et les toxicos se piquaient dans les couloirs sans électricité de notre rue. Au panier, personne ne voulait y foutre un pied. La bibliothèque du quartier était restée fermée pendant 6 mois. Ma mère avait réussi à négocier avec le ministère de la Culture et un élu local sujet à l'eczéma de la transformer en centre de la prose. Une structure culturelle qui proposait des ateliers d'écriture, d'alphabétisation et un laboratoire d'expérimentation poétique. Fred avait passé 5 ans à enseigner aux Beaux-Arts d'Alger. Là-bas, elle avait senti la situation pourrir de l'intérieur, d'abord par des détails, des étudiants qui ne venaient plus à son cours, soudain réfractaires à certaines pratiques, dans la rue, des regards insistants, des insultes en arabe, de loin, ses voisins de palier qui ne lui ouvraient plus leurs portes. Les barbus n'étaient plus seulement dans les campagnes. En novembre 1980, la première lettre de menace est arrivée sur le bureau de la direction. Les couloirs de la fac sont devenus glacés. 2 mois avant son départ, le conseil d'administration avait décidé de planquer les nus au sous-sol. Et une nuit, des types s'étaient introduits dans l'école et avaient cassé au burin toutes les couilles et les seins des sculptures exposées dans la fac. Les salauds ! Elle avait dit en découvrant au petit matin ses corps mutilés. Ça lui avait mis un coup. Elle s'était décidée à partir par la mer pour Marseille. OK pour revenir, mais pas en France. Sur le pont du ferry, en voyant Alger s'éloigner, elle avait senti l'étranglement du sanglot. Je te laisse, ma belle. Désolée. Elle avait débarqué au panier, avec moi sous le bras, son coup d'aristocrate et sa peur de rien.
Donc oui, OK pour revenir... En France, mais voilà, Marseille, c'est pas la France. Je fais une passerelle avec le Tibi la Blanche où le grand-père, Kissima, dit ça aussi à un moment. Il dit Marseille, ce n'est pas la France au nom de Dieu. Les Marseillais, ce n'est pas les Français. Là aussi, il y a une passerelle. Ouais. Alors, c'est vrai, ça ?
Bah, je me suis fait plaisir. Parce que, bon, il fallait mettre un peu de Marseille dans le texte, tu vois. Mais en fait, c'est vrai parce que le grand-père de ma femme était docker sur le port de Marseille. Et il avait bien connu Saint-Ben Ousmane, tu tu vois, c'est un Ben Ousmane qui est écrivain, grand cinéaste des années 70. Et donc, du coup, voilà, il y a une passerelle comme ça entre le Sénégal et Dakar et Marseille. Mais je pense que Marseille a toujours beaucoup intrigué les Sénégalais. Pourtant, Marseille n'est pas une ville noire, hein. C'est une ville algérienne. C'est une ville de l'océan Indien avec les Comoriens. Mais ce n'est pas tellement une ville africaine, subsaharienne. Il n'y a pas de grosse communauté noire à Marseille.
Par contre, plus à... dans Seine-en-Tézieux, le quartier, le panier, et en particulier l'endroit où le personnage alors qui est inspiré de votre mère, hein, se pose, il y a beaucoup de Comoriens.
Oui, mais les Comoriens, c'est une communauté encore différente. Ouais. Et donc, mais les Sénégalais, en tout cas, sont très intrigués par Marseille parce qu'il y a un côté, déjà, bon, je pense qu'il y a le football, bien sûr, qui joue, mais il y a un côté d'une ville qui donne l'impression de plus accueillir et un peu relié un peu au bordel aussi. Marseille, Dakar, c'est deux villes très bordéliques. Et Marseille intrigue beaucoup les Sénégalais. Il y a d'ailleurs Banjo, Claude Maquet, qui a écrit aussi sur Marseille, sur les Africains à Marseille. Voilà, il y a des passerelles entre Dakar et Marseille. D'ailleurs, quand tu vas à Dakar, il y a toujours des bus ou des taxis avec écrit Olympique de Marseille ou Marseille, je t'aime. Alors, c'est très bizarre. Mais ouais, il y a un truc entre Dakar et Marseille.
Alors, on a beaucoup dit que Cinq dans tes yeux était un roman sur la gentrification. Et c'est vrai que ça parle de ça. Ça parle de ce quartier de votre enfance, le panier dans lequel les copains, la bande n'y est plus. Et un quartier qui s'est métamorphosé à toute vitesse. Et donc, il y a des pages assez même cruelles sur les venants, ces fameux venants marseillais. Mm.
Ah ouais, je les loupe pas, les venants. Mais le panier s'était voué à devenir la vitrine touristique marseillaise. À partir du moment où ils ont commencé à reprendre l'Hôtel Dieu et à en faire l'intercontinental, bon, c'était voué à devenir ça. Moi, quand j'écris Cinq dans tes yeux, mon point de départ, c'est pas de dire je vais faire un texte sur la gentrification. Il n'y a pas une intention de départ. Mmh. Comme au même titre que quand je commence Tibi, je me dis pas que je vais faire un texte sur le néocolonialisme. Pourtant, ben à la fin, à force d'observation et à force de ce que tu racontes, eh ben tu te retrouves à faire un texte sur la gentrification. Mais voilà, c'est mon point de départ, c'est de dire, moi, je veux redonner vie à mon quartier qui a disparu et à cette bande de jeunes, qui n'est plus là. Et c'était vraiment ça le souhait de départ, de dire, je veux leur redonner vie. Et mais au même titre que toutes nos adolescences ont été perdues, que ce soit vous, n'importe qui. Toutes les adolescences sont perdues. C'est le moment fort où on vit quelque chose et on le perd. Après, la gentrification, moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Et vraiment, tout à l'heure, on parlait de la communauté comorienne. Pour moi, vraiment, si on parle de gentrification, parce que quand on parle de la gentrification, quand les gens de la plaine, c'est pour ça que je suis énervé quand les gens de la plaine ils me parlent de gentrification. C'est la gentrification, moi, je peux vraiment, la communauté comorienne, elle l'a vécu de plein fouet. Et non seulement elle a vécu de plein fouet, mais aussi on peut en constater même les dégâts. C'est-à-dire que la communauté comorienne qui était dans l'îlot Labadi, c'était une communauté qui était réputée pour être très calme, qui était... avec des parents qui arrivaient, qui travaillaient dans les arrières-cuisines des restaurants, des gens qui galéraient vraiment, qui étaient sujets aussi qui étaient la proie des marchands de sommeil. Hein. Et puis, quand ça s'est gentrifié, ils sont tous partis dans les quartiers nord. Il y avait déjà une partie qui était dans les quartiers nord. Mais aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe dans les quartiers nord, avec, par exemple, Marlin en fait son deuxième film, entre les guerres de réseau, entre les cèdres et les lauriers, par exemple, avec un mec comme Ali Hamada, qui est en prison aujourd'hui, il y a 17 meurtres. C'est la communauté comorienne aussi qui est dedans, là-dedans. Pour moi, ça a été un truc de fou de voir ça. De dire, pour moi, un comorien, c'était pas possible que ce soit un voyou. Et tu vois ? Elle est là, tu vois, elle est là, vraiment, les vrais effets de la gentrification. L'effet néfaste, il est vraiment là, l'effet sombre. Il est là et c'est eux qui l'ont vécu vraiment de manière très, très forte.
Alors, il y a un effet peut-être plus riant, c'est cette omniprésence des gens de culture dont vous êtes, hein, en rappelant les éléments biographiques, vous êtes vidéaste, issu d'un milieu culturel, et donc il y a des pages dans Cinq dans tes yeux qui décrivent de façon très plausible et caustique ce milieu. C'est féroce quand même. Là, pour le coup, il y a un regard, en tout cas dans Cinq dans tes yeux, très, très, très cruel aussi sur des codes, le toit-terrasse de la friche,
ouais, ben c'est...
les festivals de films internationaux.
Ouais, le FIF.
Oui, le FIF, oui.
Le fameux FIF,
voilà.
Ouais, ben, c'est un milieu, c'est bizarre parce que c'est à la fois mon milieu,
ouais,
tu vois, c'est à la fois pas mon milieu. Parce que, comme disent mes parents, ils disent nous, on est comme. On est arrivé comme les mecs qui sont arrivés sur la Lune, ils ont posé le drapeau bobo, tu vois. Mais eux, ils sont arrivés dans les années 70. Comme je le dis là, il n'y en avait pas beaucoup de gens qui allaient au panier dans les années 70, 80. Donc voilà, on peut quand même leur attribuer ça, tu vois. Mais quand même, c'est vrai que moi, je me retrouve dans une bande de jeunes, à virer dans une petite délinquance. Pas de grande envergure, mais petite délinquance quand même. Et à la fin, bon, j'écris un bouquin. C'est moi le seul de la bande à avoir écrit un bouquin, tu vois, parce que j'ai ce bagage bourgeois, hein, ce bagage culturel. On écoute France Culture à la maison, on va dans des expos, on va au Miroir, qui est le cinéma de la vieille charité, à voir des Pasolini, des Fellini à l'âge de 12 ans, ce que mes collègues n'ont jamais fait. Donc voilà, évidemment que je fais aussi partie de ce milieu. Mais quelque part, je l'ai toujours un peu rejeté aussi. C'est-à-dire que j'ai jamais donné dans les trucs friche de la Belle de Mai, culture subventionnée. Et finalement, ma mère, elle est quand même, tu vois, elle est travaillée aux Beaux-Arts, elle a bossé à la Friche. Donc il y a aussi tout ça, ce rapport un peu ambivalent entre je crache sur les venants, mais j'en suis aussi un peu un, quoi.
Alors pour continuer à faire des passerelles entre les deux romans, il y a aussi un personnage, Issa, qui est artiste finalement, enfin qui a alors il est dans la mode, et il y a, je pense à une scène en particulier, la soirée hype chez Madame Plume Blanche, où on retrouve finalement un petit peu ce ton et ce regard assez acerbe quoi sur le milieu artistique. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi comme ça, de la gentrification, ou en tout cas, il y a à Dakar.
L'idée, c'était de dire Dakar à tout niveau. C'est un roman qui est, je pense, un roman, pour moi en tout cas, je l'ai voulu, même si on commence avec une scène chez un marabout, mais j'ai voulu ce roman très contemporain. Et l'idée, c'était de dire, j'écris un roman sur le Dakar d'aujourd'hui. Donc les Dakars d'aujourd'hui, ça veut dire, y a une classe bourgeoise, il y a une classe riche, il y a une classe de gens aisés. Et il y a Dakar a aussi ses bobos. Dakar a aussi ses soirées de venants qui nagent dans leurs contradictions, à la fois en faisant une expo sur le wax comme un tissu colonial, mais en même temps en se comportant comme des vrais colons. Bon, c'était aussi une manière de dire ça. Bon, le roman, il n'est pas que là-dessus. Je me suis fait plaisir sur la dernière partie du roman. Parce que voilà, mais il y a aussi dans le personnage de Issa la capacité, quand ils arrivent dans cette soirée, Issa et Tibilé, elle est hyper mal dans cette soirée, elle n'arrive pas à s'intégrer. Neurone, lui, il est obligé de picoler pour pouvoir être bien. Et lui, Issa, il est hyper à l'aise, alors que c'est un mec qui vient quand même d'un milieu très populaire. Et Tibilé dit, finalement, c'est celui qui n'a pas de visa, mais c'est celui qui arrive à le mieux le voyager de nous trois. Il voyage et il casse les lignes sociales. Il arrive à végéter dans plusieurs milieux sociaux de manière très naturelle.
Ce qui est le cas de Stress aussi.
Ce qui est le cas de Stress.
Un peu moins, peut-être.
Non, Stress, il est... Stress, il est caméléon, mais il n'est pas vraiment lui-même nulle part, en fait. Il n'est pas bien vraiment dans le milieu. Il est nulle part. Et d'ailleurs, comment il finit rejeté de tous. C'est-à-dire que rejeté même de sa propre ville. Stress, il n'est pas bien dans le milieu un peu bandit, voyou, crapuleux, parce que c'est un peu une imitation. Et les gens le savent que c'est un agneau. D'ailleurs, il le dit, les gens, ils voient dans mon regard un regard d'agneau, je ne suis pas vraiment un loup. Et dans le milieu bobo, bah, ils jouent trop la petite Kaira pour être vraiment bien avec eux aussi. Et puis, il a trop de comptes à régler. Je pense aussi quelque part avec sa mère. Donc finalement, tout ce truc où il se retourne aussi contre ce milieu-là, c'est aussi une manière de se retourner contre sa mère.
Alors nous, on continue à faire des allers-retours. On va peut-être entendre maintenant un extrait de Tibi.
Ouais, Tibi. Dans la cour du marabout, des chaises en plastique bordent les quatre murs enduits de chaux blanches. Les mêmes qu'on retrouve partout, rouges, bleus, jaunes, certaines sont logotypées Fanta, Coca-Cola ou Orangina. Avec le temps, elles prennent le rythme du pays, se détendent, le plastique devient trop souple pour supporter les grosses fesses. Une dame qui doit faire dans les 2 mètres les accueille d'un salam alaikum de réfrigérateur. Elle en voit passer des gens sous les feuilles bien vertes du grand corosol planté au milieu de la cour. On vient chez le marabout pour retenir son mari, stériliser sa coépouse, rallonger sa bite, obtenir une promotion ou éliminer ses manières de femme. Ici se déversent les secrets les plus inavouables et les mots incurables. Le marat oriente les décisions, absorbe les tares, répare les corps et les esprits. Au pays, du plus riche au plus pauvre, tout le monde a un marat, ou presque. Mais on va le voir en rasant les murs. Et quand on le recommande, c'est toujours à voix basse.
Alors là, peut-être pour situer, dire qu'il s'agit aussi d'une histoire d'amitié, et d'amitié adolescente, et qu'il y a 3 personnages, hein, Issa, Tibi et Neuron, qui passent leur bac, qui attendent les résultats du bac, et que ces résultats vont être assez déterminants par rapport à leur avenir. Et là, donc, il y a une visite chez le marabout qui est intéressée, très intéressée.
Ouais. Ben ouais, la visite chez le marabout, elle a une histoire par rapport aussi au personnage de Issa. En fait, moi, quand on était... Parce que ma femme, je la connais depuis longtemps. Et quand elle faisait ses études ici, on traînait dans des cercles d'étudiants sénégalais à Marseille. Et j'avais un ami qui nous avait raconté l'histoire. Bon, qui était sénégalais, donc arrivé en France, et qui avait découvert son homosexualité au Sénégal. Et il était allé voir un marabout pour lui enlever ses manières de femme. Et le marabout lui avait dit « Je ne peux rien faire pour toi, il faut que tu t'acceptes tel que tu es ». Bon, la réponse, elle était belle. Hein. Et moi, j'avais voulu, au départ, je voulais que la première visite chez le marabout, parce que c'est le début du livre, je voulais que Issa, il aille voir le marabout pour cette raison-là. Et ma femme, elle me dit « Ouais, tu sais, quand on a passé le bac, en fait, il y a les 3/4 de la salle, ils avaient tous un bic marabouté. Quand ils ont passé le bac avec un bic marabouté. » Alors, j'ai trouvé ça génial, l'histoire du bic marabouté. J'ai dit « Bon, ben, finalement, je vais faire ça. » Et souvent, les gens ils me disent « Ouais, cette histoire de marat et tout. » Pourtant, c'est vrai, quoi. Moi, des marabouts, je vais souvent en voir quand je vais au Sénégal. On a nos marabouts avec ma femme. Et d'ailleurs, je raconte souvent cette histoire, c'est-à-dire que quand j'ai sorti Tibi la Blanche, j'étais en shortlist du prix Landerneau. Le prix Landerneau, c'est 10 000 euros. Eh ben, j'ai appelé mon marabout. J'ai dit, c'est quoi, tu me fais gagner, tu as 1 000 euros pour toi. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas gagner le prix Landerneau. Eh bien, je ne l'ai pas gagné. Tu vois ? Donc, ben, ça marche pas. Mais au-delà de trucs où on rigole et tout, le marat, c'est vraiment un truc, j'avais trouvé ça impressionnant parce que la première fois où ma femme m'a ramené chez un marabout, elle a dit au marat, il ne croit pas en vous. Et lui, il m'avait dit, je comprends que tu ne crois pas en moi, mais par contre, il faut croire en la force du verbe. J'avais trouvé ça beau, la force du verbe, c'est-à-dire la force de la force qu'on va te donner à travers ce qu'on va te dire, tu vois. Les médecins ont cette force-là. Le médecin qui va te dire ouais, ça va bien, t'inquiète pas, allez, arrête. Ben, tu vas faire des bonds dans la rue quand tu vas sortir du cabinet. C'est un peu ça, tu vois. C'est un peu quelqu'un qui va te donner une confiance aussi, tu vois, à travers aussi bien sûr les textes coraniques. Hein. Il y a aussi tout un jeu avec le texte coranique. D'ailleurs, il y a tout ça qui est décrit dans le truc de Tibi. Mais pour revenir à Issa, Je pense qu'il va faire, il va faire ça pour enlever ses manières de femme. Je ne le fais pas. Mais finalement, le personnage de Issa garde cette facture-là. Garde cette facture de cet homme un peu ambigu, on ne sait pas trop.
Ambiguïté, ami avec les femmes.
Levé, hein, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il est. Et il garde ce truc-là. D'ailleurs, on m'a toujours souvent posé la question de savoir si Issa était homosexuel. J'ai dit, moi, je ne sais pas. C'est à toi de... Moi, je ne l'ai pas écrit, tu vois. C'est à toi de faire ton choix, tu vois. Mais je ne l'ai pas écrit. Mais voilà, on garde ça quand même. Et il faut savoir aussi qu'au Sénégal, l'homosexualité, c'est vraiment quelque chose de chaud. Hein. D'ailleurs, Bougarsar en a fait un texte qui s'appelle « De purs hommes ». C'est un tabou très, très fort là-bas. Voilà.
Alors, on a fait le chemin ensemble, mais je n'ai pas été marabouté. On n'a pas préparé la rencontre. Hein. Je l'atteste devant tout le monde. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de passerelles. On aurait pu imaginer qu'avec Tibi, à Dakar, le Marseillais, Adrien Bell, s'éloignerait un peu du fait de l'autobiographie ou du réel. Il y aurait plus de licence. Mais en fait, il y a quand même toujours ce croisement et... vous allez puiser la belle famille, des choses vues. Ça fait partie d'une démarche d'écriture.
Les gens, ils m'ont souvent dit, oui, tu es le Marseillais. Moi, je suis pas Marseillais. Je me considère pas vraiment comme un Marseillais. Ma famille, il y a des gens qui connaissent ma famille ici. C'est des gens qui n'ont pas d'accent, qui sont des intellectuels, qui arrivent, mon père qui arrive d'Algérie, mais bon, pied noir, ma mère du Sud-Ouest, noblesse des Argentés du Sud-Ouest. On n'est pas vraiment des Marseillais. D'ailleurs, moi, si je vais dans un bar à Andoum, ils vont me dire, toi, tu n'es pas Marseillais, tu vois. Il y a des gens qui me disent, j'ai pas beaucoup d'accent, d'autres qui me disent, tu as de l'accent, quand je vais à Paris, je perds mon accent, tu vois. Donc, Cinq dans tes yeux est un livre d'observateur aussi. Tu vois, ce n'est pas un livre de Marseillais, c'est un livre d'observateur. Tibi la Blanche aussi, c'est un livre d'observateur. C'est la position d'un blanc au Sénégal, qu'on retrouve beaucoup, notamment, par exemple, avec tous ces déplacements en voiture. Tu vois, c'est un truc qu'on fait beaucoup à Dakar. Quand on est étranger aussi dans une ville comme Dakar, on passe beaucoup de temps en voiture. Tu vois, donc c'est des choses qu'on ressent. Il y a un regard très extérieur finalement dans Tibi la Blanche. Et il y a une question que je pose clairement dans le rapport qu'il y a avec le fou. Le fou, c'est Jacob. Et Tibilé, elle va rejoindre un fou dans un hôpital psychiatrique qui est juste à côté de là où on habite à Dakar. Et la première chose que lui pose comme question, il lui dit, il est où le blanc? Et elle lui dit, quel blanc? Il dit, le blanc qui filme, tu vois. Donc, c'est la première question. Et donc, ça, c'est moi, le blanc qui filme. Et après, la deuxième question, c'est quand elle revient des résultats du bac, il lui dit, tu as eu quoi comme sujet de philosophie, le fou? Et elle lui dit, suffit-il d'observer pour connaître? Tu vois, c'est des questions que je pose à moi-même dans mon propre texte, des questions d'observateur. Suffit-il d'observer pour connaître? Suffit-il d'observer une culture pour connaître et pour pouvoir écrire dessus aussi? Mais finalement, je l'ai déjà fait sur Cinq dans tes yeux, tu vois. Cinq dans tes yeux, j'écris sur la communauté maghrébine, comorienne. C'est des gens que j'ai observés toute ma vie.
Comment ça se passe, en fait, quand on est dans une matière aussi intime, personnelle? Comment ça réagit? Et est-ce que c'est...
Tu veux dire quand on sort le bouquin?
Ouais.
Ah, c'est chaud, hein? C'est chaud et c'est pas chaud. C'est-à-dire, moi, déjà, je suis le mec qui écrit des livres sur des gens qui ne lisent pas les livres. Tu vois, donc par exemple, souvent on me dit dans Cinq dans tes yeux, est-ce qu'ils ont lu le bouquin? Je crois qu'il n'y a aucun de mes amis qui l'a lu. Tu vois, déjà, c'est pratique. Hein, moi, je leur ai envoyé. Après, vous faites votre vie. Hein, maintenant, il y a prescription. Tu ne peux pas venir me voir. Le livre, il est sorti, ça fait un moment. Mais c'est toujours étrange. Tu vois, par exemple, dans « Cinq dans tes yeux », j'ai écrit un livre sur un mec qui vit seul avec sa mère. Donc, j'ai éliminé mon père et j'ai éliminé mon frère. C'est très oedipien. J'ai gardé ma mère. Pour moi, tout seul. Et du coup...
Ils n'ont pas apprécié.
C'est des choses qui ne se disent pas. C'est des choses... Après, des fois, il vaut mieux ne pas être dans un livre. Hein. Je dis la vérité. Des fois, il vaut mieux éviter. Hein. Et après, il y a des gens, je les ai taillés, ils étaient contents d'être taillés. Tu vois, je suis content d'être dans 5 dans tes yeux, merci. Mais le rapport à l'intime, voilà. Pour Tibi, j'avais plus de pratique aussi. Donc j'ai su aussi, tu vois, transformer les personnages. Et puis Tibi, c'est vraiment un texte où à la fois il y a des personnages connus et des personnages complètement fictifs. Et il y a eu l'expérience du cinéma aussi qui est passée entre les deux, parce que j'ai co-scénarisé 5 dans tes yeux. Donc du coup, j'ai appris aussi, tu vois, à mélanger les personnages, à prendre du réel et à fusionner comme ça des personnages. Donc les gens un peu se perdent aussi là-dedans, tu vois. Il suffit que tu changes une caractéristique physique ou tu mets un tic de langage, un truc, et la personne, finalement, elle ne peut plus venir te dire « c'est moi ». Tu vois, c'est ça tout le jeu entre la fiction et le roman. Où est-ce qu'elle est, où est le réel? Il suffit pas de raconter l'histoire de quelqu'un pour écrire un roman. Tu vois, il faut le mettre en scène, il faut, donc il y a tout ça. Mais pour Tibi la Blanche, il y a un truc qui est très étrange, c'est qu'au Sénégal, on te parle pas de ce que tu fais. Tu vas à Dakar, tu arrives dans ta famille, jamais on va te dire alors ton roman. Comment ça se passe? Pourtant, ils savent tous que tu as écrit un roman, mais jamais ils vont te poser la question. Mais même si tu es routier, tu conduis des camions ou que tu es journaliste, tout truc, ils ne vont jamais te poser de questions là-dessus. Tu vois, il y a une grande pudeur avec ce que tu fais, ce qui permet d'homogénéiser aussi beaucoup les conversations, c'est-à-dire que tout le monde a la même puissance, c'est-à-dire que la parole d'un mec qui est vigile à H&M à Paris, c'est la même que le mec qui est au gouvernement à Dakar, quand on est autour du Tchèp, ils ont la même force de parole, parce qu'on ne ramène pas ce qu'on fait. Donc du coup, ils ne m'ont pas ramené à ce que j'avais écrit. Ils ne m'en ont jamais parlé, quasiment. Un peu par bribes. Merci d'avoir parlé de nous. Tu nous as rendu fiers, des choses comme ça, tu vois. Mais la part de l'intime, je pense qu'à partir du moment où vraiment tu aimes les gens, tu vois, ce sont tes personnages les plus proches. Et les personnages, finalement, qui en prennent plein la gueule, c'est les personnages, finalement, les plus lointains, tu vois. Ça se retrouve dans 5 et ça se retrouve dans Tibi.
Alors, ce qui se passe, c'est que dans les deux romans, c'est quand même des adolescents qui sont au cœur de l'histoire. Mais dans l'un, il y a eu la possibilité d'aller puiser dans des souvenirs d'enfance, alors que dans Tibi, on n'est plus dans la même époque. Alors comment on écrit sur des adolescents
C'est un autre travail.
C'est un autre travail. Et qu'est-ce que ça apporte, en fait, et que de plus ou, j'imagine que ce n'est pas la même chose qui se passe.
Ouais, c'est une question qu'on m'a rarement posée. Je pense que, bon, dans 5 dans tes yeux aussi, quand même, on est à la première personne. C'est quand même un rapport très différent. Tu vois, c'est vraiment la première personne, c'est une caméra embarquée. On est vraiment dans l'intimité du personnage. Là, ce qui est très... Ce texte, la première personne dans 5 dans tes yeux a vraiment une histoire. C'est-à-dire que moi, au début, quand j'ai donné mon premier manuscrit à Sophie Tsimri, qui est décédée l'année dernière d'ailleurs, qui était mon éditrice des éditions de l'Iconoclaste, je l'avais fait passer par Sylvie Gracia, et j'avais écrit... 5 dans tes yeux, c'est une partie au présent, une partie au passé. Ça passe, tac, tac. Un chapitre présent, un chapitre passé, un chapitre années 90, et on remonte comme ça le fil et les deux se rejoignent. Mais j'avais écrit la partie dans le présent au jeu et la partie dans le passé au il. Et elle m'avait dit, putain, on comprend rien, quoi. Tu vois? Et du coup, j'avais dû tout faire repasser ce que j'avais écrit au il, au jeu. Mais en l'espace d'un mois, deux mois pour pouvoir être publié, tu vois? Parce qu'il fallait aller vite. Mais en même temps, ce que ça génère, c'est dingue. Parce que si tu écris au il et que tout d'un coup, tu le refais passer au jeu, eh ben, tu ne peux plus te cacher. Tu vois, tu te caches plus. T'es obligé de dire des choses que tu vois. Et puis finalement, la focale, ce n'est plus la même. Moi, je suis quelqu'un de l'image. Et la focale, ce n'est plus la même. La caméra, ce n'est plus la même. Le il et le il du roman de Tibi, C'est un île omniscient, c'est une caméra large, tu vois, toujours, même si on est au proche avec les personnages, on est toujours un peu à distance de... Mais c'est la distance aussi du toubab, c'est la distance du blanc, tu vois. Donc il y a aussi tout ça qui joue. Mais finalement, je me suis pas mal posé la question de savoir si... Comment on fait quand on passe d'un récit... comment font les écrivains qui... Il y a beaucoup de premiers romans qui sont des romans autobiographiques. Et comment ils font pour passer tout d'un coup au roman, roman où il n'y a que de la fiction, tu vois. Et comment... qu'est-ce que ça génère, tu vois, tout ça. Ça, c'est vraiment des questions que je me suis posées. Je pense que... ouais, je pense que c'est vraiment la distance. Il y a quelque chose qui finalement sert peut-être plus la narration aussi.
Là, vous avez fait un pas quand même dans cette direction avec Tibi.
On rentre plus dans quelque chose de narratif, tu vois. On est plus dans, on travaille plus la narration. C'est ce qui se passe beaucoup plus dans Tibi. Et du coup, le fait d'avoir plus de distance, on peut développer plus de personnages, les nourrir de manière plus forte, comme le fait un roman hein, finalement.
Il y a un troisième roman en cours dont on ne parlera pas.
Non.
Mais on s'éloigne un peu de ça, où il y a toujours cette nécessité de ramener quand même à des choses connues. J'essaye là d'obtenir des infos.
Non, mais je ne sais pas encore vraiment, franchement.
C'est trop tôt.
Mais je pense que ce sera un peu un mélange. Hein, mais j'ai pas forcément envie de bah c'est compliqué de dire j'ai pas envie de me laisser enfermer. Il faut que je me calme, j'ai écrit que deux romans pour l'instant, je sais pas non plus. reste tranquille tu vois, mais voilà, j'ai pas voulu me laisser enfermer par ma ville qui est ma ville de Marseille en partant au Sénégal, et pas forcément envie de me laisser enfermer dans un style, donc je ferai voilà.
Alors, il y a quelque chose que vous faites quand même vraiment très, très bien. On a envie que vous continuiez. C'est, ben, c'est cette façon de, sans appuyer, de nous faire visiter une ville, en fait, et ses quartiers, à travers une histoire et à travers qui est forte, et des personnages très présents. Mais enfin, voilà, quoi, c'est peut-être l'effet caméra. Et dans « Cinq dans tes yeux », dans « Tibi la Blanche », on voyage dans Marseille, dans Dakar.
Ouais. J'adore ça, les villes. Et tu vois, la question que tu poses sur l'intime et sur les matériaux autobiographiques, on pourrait même se poser la question de qu'est-ce que c'est que de d'écrire une histoire qui se passe dans une ville, et qu'est-ce que c'est que d'écrire une histoire qui se passe dans un milieu rural, et qu'est-ce que ça génère comme écriture. La ville, elle renvoie beaucoup de choses, de sons, d'odeurs, de sensations que je dis pas que le milieu rural n'en renvoie pas, mais c'est très différent. Donc du coup, je pense que l'écriture forcément est marquée par l'environnement de tes personnages et par là le lieu où tu situes ton action. Si j'avais à écrire un livre avec un petit jeune qui commence en Ariège, dans un village ariégeois, eh ben ce serait forcément très différent que s'il grandit dans les quartiers nord ou à Noailles. Parce que la ville, elle transporte l'histoire, la ville, la forme d'une ville, change hélas plus vite que le cœur des mortels. Tu vois, il y a la phrase de Baudelaire, c'est vraiment la ville qui te tue, et le rapport nostalgique à la ville. Ah, c'était mieux avant, mais oui, ben, écoute-moi, la ville, elle s'en fout. Toi, tu vas mourir, elle va continuer dans tous les cas. Hein. Tu vois, ça c'est sûr, tu vois. Donc il y a tout ça, et puis il y a aussi le rapport à la ville, c'est vraiment le rapport encore aux sensations, et tu te raccroches à ça. Quand tu écris sur une ville comme Dakar, par exemple, j'ai pas écrit un livre sur Dakar, j'ai écrit un livre sur un quartier de Dakar. C'est important de le dire par honnêteté intellectuelle aussi. Parce que je ne peux pas écrire un livre sur Dakar, parce que Dakar, je ne la connais pas assez. Par contre, je connais pas mal ce quartier. Mais ça veut dire qu'il faut se balader dans ce quartier, il faut regarder la pancarte « Soigne tes hémorroïdes » ou « Fais grandir ton sexe » à côté d'un mec qui te vend une chèvre. Tu vois, c'est toutes ces choses-là, et puis d'une odeur, et puis les flammes de l'usine Total au loin. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une usine Total à côté d'un hôpital psychiatrique quand on est français ? Il faut le dire, tu vois, à côté d'une plage complètement dégueulasse de déchets, tu vois, et tout ça, c'est l'observation, et la ville t'aide à faire ça, parce que du coup, ça devient un personnage en soi.
Alors, il y a aussi une façon de parler politique, parce que c'est le cas dans les deux romans, sans appuyer, il n'y a pas d'intention idéologique, enfin on ne sent pas, en tout cas ça, c'est pas qui est présente, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'embourgeoisement dans Cinq dans tes yeux, mais la question peut-être coloniale du lien entre la France et...
Complètement. Ben, il y a aussi encore... c'est aussi... Finalement, c'est ce que je disais au début, c'est que c'est en amenant les choses... Par exemple... Quand je parle du vieux Carboni qui a perdu la rose du Parti Socialiste et qui a voté Le Pen et qui finalement il a retrouvé sa rose du Parti Socialiste parce qu'il y a Guérini qui lui a donné des petits arrangements. Tu vois, ça je le décris parce que je l'ai vécu. Mais je ne dis pas, je vais écrire un truc là-dessus ou sur le clientélisme.
Alors, Guérini, ancien président du Conseil Général.
Je vais pas écrire un truc
qui n'est pas nommé.
On le reconnaît. Il y a une scène où on le reconnaît, mais je ne me dis pas, je vais écrire un truc là-dessus. J'écris à partir de choses que j'ai observées, encore une fois. Mais je ne fais pas une espèce de thèse. Et quand... par contre, je pense que écrire... C'est ne pas enfermer les gens. Quand tu écris un roman, tu ne dois pas enfermer les gens. Tu ne dois pas dire « moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Il faut penser comme ci ou comme ça. » Sur le Sénégal, il y a à la fois... on est en plein France dégage. Hein, et d'ailleurs, France dégage a fait son petit... Parce que Joe Maï, le nouveau président, vient d'être élu avec l'appui de Ousmane Sonko. Donc là, ça a changé de paradigme au Sénégal. Mais quand j'ai écrit Tibi, on est en plein mouvement France dégage. J'aurais pu verser là-dedans, dans le truc, les Français, ils sont méchants et tout. Mais il n'y a pas que ça dans le livre. C'est-à-dire, c'est aussi de dire que c'est plus complexe que ça. Mais c'est à partir de toutes tes petites touches d'observation que tu vas montrer la complexité.
C'est d'autant plus complexe que les trois personnages principaux ont un rapport avec la France assez compliqué parce qu'ils espèrent y aller, ils ont envie, ils hésitent, ils ne veulent pas. Mais rien n'est simple, rien n'est très linéaire hein, dans le rapport à la France.
Complètement. Au début, on me disait, quand j'ai sorti Tibi, on me disait c'est quoi le rapport des Sénégalais avec la France ? Ah, j'étais un peu emmerdé avec cette question. Déjà, je ne suis pas Sénégalais. Et puis en fait, au fur et à mesure, puis tu te dis, mais en fait, moi j'ai écrit plein de personnages et chaque personnage a un rapport particulier avec la France. Chaque personnage a un rapport différent, que tu sois quelqu'un qui a fait l'école presque des colons, que tu sois quelqu'un qui a déjà tes papiers français, comme c'est le cas pour Tibilé, parce qu'elle a un grand-père tirailleur, que ce soit quelqu'un qui vient d'un milieu plus populaire ou alors d'un milieu plus proche du capitalisme, du libéralisme. Donc chaque rapport est différent. Et puis même le rapport que tu as avec la France, ça peut être aussi un rapport de posture. C'est très compliqué, en fait, de décrire. Toi, tout ce que tu dois faire en tant qu'écrivain, pour moi, c'est juste de décrire les choses, mais pas de dire. Tu vois. C'est-à-dire que la posture, par exemple, d'un mec comme Neurone, il sort du bac et il n'a pas eu la mention qu'il voulait.
La mention très bien.
Et la mention très bien. Il a eu juste la mention bien. Et quand il sort du bac, eh ben, il voit tous les dérèglements du pays. Et quelque part, il a eu... la mention bien parce qu'il a chuté sur un devoir de philosophie politique où il a fait un brûlot contre l'établissement et tout. Et pourtant, c'est un fils de bourgeois qui a une concession automobile. Donc il est coincé un peu dans ses postures parce qu'en plus de ça, il va avoir un visa grâce aux appuis de son père. Et le mec, il est... Et d'ailleurs, j'écris « La révolte d'un fils de riche fera toujours un peu sourire ». C'est vrai qu'un petit un fils qui est blindé, quand il te dit « Ah, il y en a marre et tout », tu as envie de lui dire « Bon, calme-toi, tu vois. » Mais en même temps, il a le droit de l'être. Il a le droit d'être révolté. Même le fils, il a le droit d'avoir sa révolte, chacun sa révolte. Donc c'est tout ça aussi. Écrire, c'est juste poser des choses, des décors avec des personnages qui se déplacent. Et qu'est-ce que ça raconte ?
Alors même s'ils ont de la complexité, ils ne sont pas des caricatures... Il y a une vraie attention dans les deux romans à finalement aux classes, en fait, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, aux classes sociales, enfin, à la façon dont la position sociale en fait marque les gens, sans rendre impossible des rencontres et des croisements, etc. En particulier dans Tibi, puisque c'est le cas.
Je pense que c'est plus fort dans Tibi que dans 5. J'ai toujours pensé que la lutte des classes à Marseille était quelque chose de très bizarre et de très compliqué à saisir. La lutte des classes à Marseille, c'est une lutte des classes qui vient se marier avec les différentes vagues d'immigration, avec les Italiens qui ont pris le pouvoir, avec les Corses, avec le clientélisme. Je veux dire, aujourd'hui, parler de lutte des classes à Marseille, c'est très compliqué parce que au cercle des nageurs, tu as des mecs, c'est des mafieux, tu vois. C'est compliqué de dire, elle est où la lutte des classes avec des mecs qui sont mafieux, tu vois. C'est compliqué. Les mecs, ils viennent de là-bas, ils arrivent là. Pour le Sénégal, c'est très marqué parce que au Sénégal, c'est très visible. C'est très, ça commence un peu à monter au Maroc parce que je suis souvent au Maroc, mais la classe moyenne existe très peu au Sénégal. C'est soit très pauvre, soit très riche. Tu vois.
C'est contrasté par exemple dans la description des maisons, des trois.
Voilà, les maisons, la voiture, l'air climatisé dans la voiture. Mais en même temps, il y a au Sénégal. Il y a aussi quand même un truc qui est au-dessus de tout ça, qui est la culture. C'est-à-dire que tu pourras toujours dire... Il y a toujours la culture. C'est-à-dire qu'à la fin, le mec, il va te dire bonjour. Il n'est pas... Alors, bien sûr, ça peut être un fils de riche, d'industriel, de truc, mais il sera toujours Soninke, ou Peul, ou Jola, ou Serrer. Et derrière ça, il y aura, ce que j'ai dit dans les résultats du bac, il y aura... toute une série de rites, de rapport à la religion, de rapport à l'animisme, de la manière dont tu vas te fringuer, le rapport que tu vas avoir avec ta mère, avec ta grand-mère, ce sera marqué dans ton nom de famille. Donc tout ça est au-dessus, en fait, quelque part. Il y a, bien sûr, ces choses de classe très, très fractionnées, voilà. Mais en même temps, il y a aussi tout le voilà, cette espèce de nappe culturelle qui enveloppe tout ça. Hein, c'est très fort. Mais finalement, ça rejoint aussi le découpage colonial et les empires, tu vois. Les empires africains, au départ, c'était l'empire Soninké, l'empire du Ghana, l'empire Mandingue et tout. Les Français, les Anglais, ils ont fait découpage au scalpel comme ça, tu vois. Mais c'est resté. Et c'est dans l'air. C'est partout, en fait.
Alors, tout à l'heure, vous disiez que vous aviez eu envie de sortir de votre zone de confort, de ne pas vous laisser enfermer dans la posture de l'écrivain marseillais. Mais avec une prise de risque, celui d'écrire un roman sur le Sénégal, sur Dakar, alors qu'on est un toubab. Ouais. À un moment où les questions d'appropriation culturelle sont posées avec force.
Ouais. Elles sont... Au moment où j'ai sorti Tibi, elles sont là, mais la question de l'appropriation culturelle, elle est pas vraiment dite. Elle n'est pas frontale. C'est des bribes de choses. C'est « Ouais, j'ai un copain qui ne voulait pas le lire. Il y est allé à reculons. Ah, » Pourquoi il est allé à reculons ? « Ah, parce qu'un blanc qui écrit sur l'Afrique. » Tu vois, c'est des choses que tu entends. Et puis finalement, les gens, ils commencent à parler là-dessus 2 ans après. C'est comme un enfant, un livre. Au début, quand tu le sors, les gens, ils vont pas te dire « ton enfant, il est pas beau », tu vois. Par contre, quand il commence à marcher, aller un peu plus loin de toi, ils vont commencer à parler. Ils vont te dire des choses, tu vois. Ils vont te dire « ouais, tu n'étais pas à ta place, tu n'es pas légitime », tu vois, des choses comme ça. Ce sont des choses qui infusent beaucoup hein, dans la littérature. On parle de « sensitive reader », écriture inclusive, c'est quelque chose qui commence vraiment à infuser de plus en plus, c'est-à-dire quelle est ta place et qu'est-ce que tu as le droit d'écrire et quel personnage tu as le droit de créer, quel personnage tu as le droit de voilà et c'est sûr que quand tu es blanc et que tu écris sur l'Afrique, on t'attend au tournant. Si j'avais été africain, ça aurait été très, très différent. On t'attend au tournant sur toutes sortes de choses, tu vois. Et donc, voilà, il y a... Mais par contre, je me retrouve dans des prix lycéens, par exemple. Les lycéens, ils s'en foutent de ça. Mais vraiment, tu vois. Eux... Ils lisent une histoire avec des jeunes qui passent le bac et ils te font des retours là-dessus, tu vois. Et ça qui est beau. Mais quelque part, ouais, la place de l'écrivain, ben, elle est, c'est une question qu'on se pose et on va te dire ah, n'est pas Zola qui veut, n'est pas j'ai entendu ça, n'est pas Zola qui veut, n'est pas Hugo qui veut, Zola il a le droit d'écrire sur des gens qui vont au fond de la mine alors qu'il a jamais été au fond de la mine, tu vois. Ben ouais, ben après c'est sûr, hein, je suis pas Zola, hein. mais il y avait très peu de chances pour que, comme dit mon beau-père, il y avait très peu de chances pour qu'il y ait un blanc qui se retrouve au milieu de la communauté soninké dans un quartier comme Jamagen et qui en plus il soit écrivain. Très 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 peu de chances. C'est arrivé. J'en ai fait un livre, mais ouais, voilà.
Autre prise de risque, puis décalage, ben, un écrivain, un homme qui met en scène une femme. Stress, ben, c'était quand même vraiment le double de papier.
Stress, il est limite misogyne en plus.
Il est limite misogyne avec quand même beaucoup de. Une bande très viriliste.
Hein. Ouais. C'est pareil, tu dis est-ce que j'aurais écrit ce que j'ai écrit sur le rapport que stress avec les femmes aujourd'hui ? Est-ce que je l'écrirai encore ? Parce que c'est un parcours, c'est un truc, tu vois. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais il n'y a pas tant de gens qui sont venus me voir là-dessus, hein. Vraiment. Par contre, quand tu écris l'adaptation ciné de 5 dans tes yeux,
alors oui, voilà.
Là, tu fais.
Donc il y a un travail.
Attention à ça.
Vous avez travaillé sur.
Tu fais vachement plus attention à ça. Mais le
travail. Pourquoi ? Parce que c'est.
Parce que c'est le cinéma. Parce que le cinéma, c'est un art beaucoup plus populaire. Ouais. Et puis c'est un art aussi qui est un art collectif. Il y a des productions, il y a beaucoup d'argent en jeu. Voilà, donc c'est. 5 dans tes yeux, je t'ai dit tout à l'heure que les personnages, mes amis, il n'y en a aucun qui l'a lu. Par contre, tu peux être sûr que le film, ils vont aller le voir, tu vois. Donc c'est un rapport très différent. Et puis l'image, c'est autre chose. C'est vraiment. L'image, ça parle, c'est beaucoup plus fort. Après, pour revenir au rapport de l'écriture sur les femmes, bon. C'est aussi quelque part, c'est ma femme aussi, Tibi, quelque part un peu aussi. Mais il y a aussi, tu vois, moi je parle souvent de la scène où j'aborde la question de l'excision. Et finalement, la question de l'excision, elle est abordée à travers. Il y a Tibi qui est dans la voiture et il y a un passage radio avec une association qui lutte contre l'excision en Afrique de l'Ouest. Donc c'est une manière de parler de l'excision. Sans en parler, donc sans moi qui suis un homme, je ne vais pas parler de l'excision, tu vois. Mais j'en parle quand même à travers un spot radio. Et qu'est-ce que ça génère dans la voiture ? Tu vois, c'est ça en fait que tu fais quand tu es le regard extérieur et quand tu n'es pas la femme, quand c'est pas toi qui a été touché par l'excision. Eh ben, c'est ce que tu peux faire, c'est-à-dire offrir. Une position d'observation et de recul qui fait réfléchir les gens et qui fait même réfléchir tes personnages. Parce qu'intérieurement, tu sens Baba réfléchir et tu sens Aïcha réfléchir et tu sens Tibi, tu vois, gêné par ce spot. Parce que la communauté soninké, c'est une communauté qui est touchée par l'excision. Donc, tu sens que ce spot radio, il gêne tout le monde, tu vois. Donc, c'est ça. Et quelque part, le spot radio, c'est même moi, je veux dire. Tu vois.
On aimerait continuer la discussion, mais pour terminer, on va à nouveau entendre
Allez.
Un extrait. Et ça sera 5 dans tes yeux à nouveau. Ouais.
Je pourrais lui parler des heures à ma ville, de ses voyous, de ses grandes gueules, de ses mecs qui valent pas un clou, de ses filles avec trop de rouge sur les lèvres, et de ces petits bourgeois qui traversent jamais la Canebière, de ceux qui prennent un accent forcé en gueulant fort. Allez l'OM ! De ces venants qui écrivent leur histoire sur des pancartes de manifestation et qui affirment à haute voix, fiers d'être marseillais. Ils ont bien compris, c'est sa honte. Que le plus important, c'est pas d'être Marseillais, mais de le faire croire. Et Marseille les écoute parce que depuis des siècles, des incapables lui disent quoi faire. Elle en a marre, elle veut se sentir désirable. Elle se tire les cheveux, les décolore. Elle voudrait ressembler à Bordeaux, Lyon ou Aix. Avoir des trottoirs immaculés, des voitures bien garées et des pistes cyclables, moi, je la trouve belle comme ça, avec ses mots simples et ses manières de fille des rues. Mais elle s'en fout de moi. Elle n'a pas le temps d'écouter, mais c'était mieux avant. Elle veut vivre, se casser la gueule et se relever toute seule, danser et rire avec ses tchatcheurs et ses mythos qui l'embarquent dans des grosses bagnoles et lui racontent des histoires pleines de promesses. Elle se rêve, ma ville. Mais certains soirs, derrière la cloison de la chambre, je l'entends pleurer. Elle sait que je suis là, tétanisée d'amour. Alors, elle relève la tête, replace la bretelle de sa nuisette, s'essuie les yeux et me crie dessus. Laisse-moi tranquille maintenant, stress.
Merci.